things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Di Fiore, et prise de son assurée ce soir par Jacques Hubert, réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Marie-Josée Sirage, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon, notre affiche Bouvard et Pécuchet, d'après Gustave Flaubert, mise en scène par Jérôme Deschamps, Haute surveillance de Jean Genet, mise en scène Cédric Gourmelon, et Démon, d'après Lars Noren, mise en scène Lorraine de Sagazan. Présente également ce soir Aïssa Toundoy qui surveille en direct le fil Twitter Dispute FC. Si vous avez des commentaires à exprimer, elle les fera entendre. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du documentaire de John Nguyen, David Lynch, The Art Life, distribué par Potemkin. Alors, tout d'abord, souhaiter un prompt rétablissement à Anna Segalevitch qui devait être parmi nous ce soir, qui est clouée au lit. Moi-même, je ne me sens pas très bien, je dois le dire. Jean-Christophe Brianchon, vous, c'est plutôt la fin, c'est ça, de ce,
ça va mieux.
Cette crève qui sévit sur Paris. Marie-Josée Sirache.
C'est la fin, j'espère.
C'est la fin, vous. Philippe Chevillier.
Pas encore.
Philippe Chevillier est là parce qu'il a bien voulu se libérer pour venir donner à entendre ses commentaires sur Bouvard et Pécuchet. Aïssa Toundoy, est-ce que ça va bien?
Ça va plutôt bien, merci.
Oui,
Arnaud.
Pas de signe avant-coureur d'une quelconque maladie.
Ça viendra.
Vous êtes la plus résistante d'entre nous. On ouvre cette dispute. Je ne pourrais demander en cabine. Daniel Finot, ça a l'air d'aller, Jacques Hubert. Alors, j'écoute sa voix dans le casque. C'est pas terrible, en effet. Bon, après ce bilan de santé de l'équipe, on ouvre cette dispute avec un spectacle qui, lui, s'est déjà beaucoup promené en France, tout comme la crève que nous avons, et qui va continuer à le faire pour toute cette saison, l'adaptation de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Par Jérôme Deschamps, celui-ci partage l'affiche avec Micha Lescaut, le roman inachevé de Flaubert. Voilà rencontre de deux hommes sur un banc public près du canal Saint-Martin. D'autres découvrant qu'ils ont la même vision du monde, on va dire ça comme ça, les deux hommes deviennent amis. Et quand Bouvard fait un héritage, les deux compères vont pouvoir passer aux travaux pratiques. Agronomie, arboriculture, jardinage, conserverie, distillerie. Les deux amis, pensant tout comprendre, ne comprenant rien, enchaînent les catastrophes, mais ils n'en restent pas là. Ils vont s'intéresser aux sciences, à l'archéologie, à la littérature, à la politique, à l'amour, à la philosophie, à la religion ou encore à l'éducation, à chaque fois avec des résultats totalement navrants.
Alors, Racine.
Corneille.
Oh,
Homer. Ovide.
Fred de Musette.
Des museaux. Là, voilà.
Guyochet. Guyochet, le beau et le sublime.
Ah, je vois, débat philosophique.
Le beau et le sublime, Guyochet.
Alors,
vas-y, pose ta première question.
Alors, première question, qu'est-ce que le beau?
Il y a plusieurs sortes de beau. Un beau dans les mœurs, on ne saurait nier que la mort de Socrate ne soit belle. Un beau dans le règne animal, la beauté du chien consiste dans son odorat.
Attends, excuse-moi. Oui. Un serpent ne saurait être beau car il éveille en nous des idées de bassesse.
Jamais. Mais la condition première du beau, c'est l'unité dans la variété. Voilà.
Attends, excuse-moi. C'est un débat.
Oui, je t'embête.
Deux yeux qui louchent sont plus variés que deux yeux droits et produisent moins bon effet. Ordinairement.
Mais abordons la question du sublime. Oui. Certains objets portent en eux-mêmes le sublime. Le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête, un soleil couchant...
T'as rien compris. Ah. J'ai compris.
Ah, tu...
Le beau, c'est le beau. Hop. On est d'accord, hein, là, oui. Tout va bien, oui. Voilà. Et le sublime, le sublime.
Ben voilà. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Alors évidemment, ça peut-être ça, cet extrait donne des fait ressurgir des souvenirs, un phrasé qu'on connaît, des accents qu'on connaît, mais peut-être que la rencontre avec entre le créateur des Deschiens et ce livre culte de Flaubert devait se faire et peut-être somme toute assez logique. Marie-Josée Sirache.
Oui, non seulement elle se fait, mais pour moi, c'est une réussite. Je trouve qu'il a conservé la substantifique moelle de l'esprit qui domine dans le livre de Flaubert, qui est un livre inachevé, c'est vrai, que chacun de nous a pu lire ou peut toujours et toujours attendre de lire, tellement c'est un régal, même s'il est parfois compliqué. On a le sentiment que ça traîne un petit peu en longueur, on se perd, on confond les et Bouvard et Pécuchet, Pécuchet et Bouvard, mais on rit beaucoup et la fantaisie qui domine dans le livre, on la retrouve intacte et sublimée dans l'adaptation de Deschamps. Donc voilà, c'est un moment extrêmement agréable où l'on rit, où l'on retrouve, comme vous le disiez, les accents des chiens. Michel Lescaut est formidable face à son partenaire où on retrouve physiquement il y a un clin d'œil effectivement appuyé à Sancho Panza et Don Quichotte mais aussi dans toute la mécanique de précision qui fait ressurgir le burlesque avec beaucoup de force les références à un Buster Keaton ou un Laurel et Hardy. Donc c'est une fable philosophique. Il a opéré à de grands raccourcis dans le livre. Forcément, c'est quand même un morceau, cet ouvrage. Et je trouve qu'il va à l'essentiel et qu'il s'y tient. En tout cas, son parti pris, qui est clownesque, qui en même temps, qui pétille d'intelligence, est là.
Raccourci et ajout aussi, parce qu'on pourrait dire on va en parler ensemble.
Totalement.
Philippe Chevillier est venu au Débeauté, contacté en début d'après-midi, il est là avec nous, merci encore Philippe. Vous aviez vu ce spectacle à sa création,
ça
date pas d'hier, parce que c'était il y a un an.
Oui, à peu près, et c'est un spectacle plein de santé qui nécessite aussi des comédiens pleins de santé, je tiens à le souligner. Moi, c'était aussi un spectacle qui m'a plu. Alors, c'est une rencontre de Deschamps avec Flaubert, c'est aussi une rencontre de Deschamps avec Michel Lescaut, qui peu de temps auparavant avait fait avec Michel Faux Courteline. Donc on se demandait comment ça allait se passer, on supposait que ça allait se passer assez bien, et ça se passe très bien, ils se complètent très bien, l'un avec ce côté mince, effilé, un peu poétique, l'autre un peu survolté, un peu rond. Ça marche très bien. Et puis, il y a aussi, c'est un spectacle, c'est un peu une fantaisie clownesque autour de Flaubert, avec ce petit côté à la fois méchant, mais pas trop, et cette mélancolie que moi, j'aime bien, à la fois dans l'atmosphère et dans le jeu et dans les passages choisis. Souvent hilarant. Et puis, je tiens à dire qu'il y a deux grands clowns, mais aussi deux petits clowns qui sont bien sympathiques et qui sont donc les deux jeunes gens, Pauline Tricot et Lucas Hérault, qui en fait assure plutôt le côté le plus des chiens, puisque ils s'expriment beaucoup par des borborygmes, ils font beaucoup de gymnastique et d'acrobatie en scène, qui sont souvent très drôles, qui viennent en contrepoint de nos deux bêtistes. Et donc moi j'ai trouvé ça plutôt, c'est léger, mais après tout c'est pas mal d'avoir une représentation légère de cette encyclopédie de la bêtise actualisée par Deschamps.
Jean-Christophe Brianchon sur ce Bouvard et Pécuchet vu par Jérôme Deschamps.
Bien, moi, c'est un texte que j'aime particulièrement et dont je pense qu'il était tout à fait judicieux pour Jérôme Deschamps de l'adapter, puisque on a effectivement affaire un petit peu comme dans Les Deschiens, effectivement à ces idiots qui ne sont pas que des idiots puisqu'ils sont chacun d'entre nous, ils nous représentent tous finalement, à la fois dans leur idiotie mais dans leur intelligence et dans le bon sens qui est le leur, dans leur humanité donc. Et ça, je trouve que du coup la rencontre était heureuse certainement. En revanche, bon, sur le plan artistique, je trouve que c'est comme le dit Philippe, une proposition assez légère, et, mais qui manifestement ne prétend pas à être plus que ce qu'elle est. Et donc si on la prend comme elle a manifestement été pensée, il s'agit a priori d'un bon spectacle, puisque on rit comme on doit rire et on est ému comme on doit l'être manifestement. Après, en dehors de cette scénographie et de cette mise en scène que je pense assez légère, évidemment, comme vous l'avez dit, Michel Lescaut et Jérôme Deschamps sont assez remarquables. Toujours Michel Lescaut en particulier. Je trouve qu'il est effroyable de beauté et de justesse dans sa corporalité, dans son jeu, dans sa diction. Tout est, à mon sens, pour ainsi dire, parfait. Après, voilà, je pense que, exactement comme c'est dit dans le programme de salle, le programme commence par la famille des chiens s'agrandit. Mmh. Et effectivement, c'est exactement ça, et c'est peut-être le problème, parce que les sketchs des chiens duraient 4 minutes. Là, on est sur 1h30. Donc, évidemment, sur un plan dramaturgique, le plaquage des chiens sur le texte de Flaubert pose un petit peu problème.
Oui, mais on a connu, enfin, et vu, peut-être pas vous, qui êtes si jeune, Jean-Christophe, un certain nombre de spectacles de la compagnie des chants et des chiens, qui est reposé sur cette même pauvreté. D'ailleurs, hein, je crois que Jérôme Deschamps le dit, lui, que ce spectacle, c'est aussi repartir de ce côté-là, du côté d'un plateau assez dénudé, des accessoires, et puis surtout des interprètes, des individus qui arrivent avec leur humanité. C'est vrai que Michel Lescaut est toujours, peut-être comme un petit neveu de François Morel aussi, on n'a pas cité ce nom, mais il y a quand même une possible filiation.
À la voix, on entend.
Et dans le corps aussi, c'est quand même le grand plutôt mince et puis le petit plutôt rond. Hein, non, pardon, Jérôme Deschamps, mais il joue avec ça, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense à des binômes qu'il a pu faire avec Jean-Claude Bolléréda, Jérôme Deschamps, qui sont toujours des... Il aime bien ce côté tandem comique, et ici, il y a peut-être de cela aussi, de partir d'un texte, alors, immense. On en prend ici quel que soit le passage qu'on prenne de Bouvard et Pécuchet, c'est forcément irrésistible. Donc ça marche à tous les coups. Mais ces ajouts, j'en parlais tout à l'heure, Marie-Louise Sirage, c'est se faire se rencontrer deux univers. Je suis effectivement des chiens, beaucoup de Jérôme Deschamps, mais enfin Macha Makeyev signe une fois encore les costumes. On voit que Arthur Deschamps est assistant à la mise en scène et Félix Deschamps scénographe. Hein, la famille, on le sait, travaille bien ensemble, et c'est encore une fois le cas. Il y a quelque chose de... Oui, d'une interpénétration de deux univers, Marie-Josée ?
Oui, oui, alors vous évoquiez les ajouts. Effectivement, non seulement il y a une fidélité au texte, et cette fidélité lui permet de relier à des problématiques plus contemporaines, et notamment celles qui ont trait à l'écologie, ou même à la religion, mais avec des clins d'œil extrêmement contemporains. Et ces allers-retours sont... ils sont bien amenés, voilà. Il y a une vraie réussite, moi, je trouve. Tout comme sur le rythme, on n'a pas des sketchs, mais on a des scénettes. C'est-à-dire que vraiment, c'est des petites scènes qui s'enchaînent les unes après les autres, avec la présence, comme vous le soulignez, de Lucas Hérault et de Pauline Tricot, qui ne sont pas que des faire-valoir.
Ah, oui,
ils sont vraiment formidables, tous les deux. Ils dégagent... Il y a deux vraies personnalités. Ils tiennent bon face aux deux autres qui sont beaucoup plus aguerris. Et vous évoquiez Morel, et c'est vrai qu'on entend des accents de Morel parfois quand on ferme les yeux. C'est touchant et c'est troublant. Et c'est beau cette filiation, parce qu'en même temps, Michel Lescaut est Michel Lescaut. Il est magnifique. C'est un géant, mais dans tous les sens du terme.
Sur le rythme, pas tout à fait d'accord, Jean-Christophe Briançon.
Sur le rythme, moi j'ai réellement ressenti, contrairement à ce que vous dites, qu'on avait plus affaire à des sketchs qu'à des scénettes. Et justement, ça m'a un petit peu dérangé, et j'ai pensé que c'était entre autres dû au fait que justement il était compliqué de s'attaquer à ce texte, évidemment que c'est compliqué, et que du coup, au-delà des quelques idées qu'il en ressort, de ces idiots qui connaissent tout, veulent tout connaître mais ne savent rien, et au-delà de l'humour qu'on peut faire de cette situation qui a évidemment quelque chose de très contemporain, puisque aujourd'hui on connaît tous tout sans rien savoir, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que la dramaturgie peinait à trouver un rythme dans sa continuité, si ce n'est évidemment dans le fil rouge de la de la tristesse qu'on imagine être celle de la situation de ces personnages, ou en tout cas du questionnement métaphysique qui est leur, qu'on arrive à percevoir par l'omniprésence du ciel qui tapisse le fond du plateau, en dehors de ce fil rouge-là qui est très rapidement évoqué, on peine à voir réellement une dramaturgie se faire, et du coup un rythme s'étaler sur la longueur.
Philippe Chevillé.
Moi, je crois que cette impression, elle tient surtout au fait que on a vraiment, ce que vous dites, un compromis. On a un rythme binaire dans le spectacle, puisqu'on a une alternance d'extraits ou de textes qui sont d'après ou de Flaubert, et puis ces petites scénettes très amusantes, gaguesques, très très visuelles, très physiques, et c'est ce qui fait le lien, un petit peu comme si c'était un dictionnaire des idées reçues avec ses avec ses intermèdes. Donc moi j'ai pas trouvé que le rythme était faible. Je trouve que ça donne peut-être une forme peut-être de monotonie à la fin, mais comme c'est drôle, moi ça ne m'a pas gêné beaucoup. Et puis ce que vous disiez sur ces sauces savants d'aujourd'hui, moi je trouve que le spectacle en fait nous ramène vraiment au monde d'aujourd'hui, puisque entre les télévisions, les réseaux sociaux, on entend tellement d'assertions péremptoires et parfois d'une grande bêtise qui sont dites parfois sur le coup de l'instant, parce que c'est pas forcément que les gens sont idiots, mais ils disent des choses idiotes parce qu'ils sont de l'immédiateté. J'essaie de sauver ce qu'ils veulent sauver. Donc moi j'ai eu l'impression tout à coup de me dire ça fait du bien de voir un spectacle qui met en avant ces sauces avant que nous côtoyons, ouais, et qui sont pas tous hélas à la campagne.
Expert en tout.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est de toute façon, c'est l'éternel talent de Jérôme Deschamps de savoir transformer notre idiotie en tendresse, ou en tout cas de réussir à nous faire éprouver de la tendresse pour cette idiotie. Et en l'occurrence, il y arrive particulièrement bien, et je trouve même que dans la rencontre qui est la leur entre Jérôme Deschamps et Michel Lescaut, enfin entre Bouvard et Pécuchet, il y a réellement une tendresse qui va au-delà, je pense, enfin qui existe du fait de la rencontre réelle de ces deux corps et de ces deux comédiens et de l'existence de cette pièce, donc qui va au-delà du texte. Je trouve qu'il y a une phrase qui est très belle dans la pièce et qui résume bien la beauté de leur rencontre. Il dit à propos de leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Et je trouve que c'est exactement représentatif du travail de Jérôme Deschamps, d'essayer de faire du quotidien et de l'insignifiant quelque chose de signifiant.
Marie-Josée Serrache.
Oui, puis je rajouterais qu'il y a de la mélancolie aussi. Elle est perceptible, elle est là. Et cette rencontre, ce vrai coup de foudre auquel on assiste, c'est un émerveillement pour l'un et l'autre, mais pour le spectateur aussi. C'est-à-dire que on part dans cette aventure-là. Et ce qui est drôle, c'est le traitement, cette façon de zapper qu'ont Bouvard et Pécuchet d'un savoir l'autre, et c'est très contemporain aussi. C'est-à-dire ce que vous disiez, Philippe, avec les réseaux sociaux, cette façon d'avoir un savoir extrêmement fragmenté et finalement très creux. Guyochet, c'est un peu leur tuto à eux, quoi. Enfin, on en est là, quoi.
On en est là. Bouvard et Pécuchet, dernier mot, Philippe Chevillé.
Non, je vais peut-être enchaîner sur la mélancolie, sur la joliesse de certaines images dans la nuit, quand c'est ces petits moments justement de respiration qu'il y a quand même dans le spectacle et qui donne cette note un peu, oui, cette jolie note.
Pas de commentaires sur cette production sur Twitter et cette Undoy.
Non, mais... des retweets, des likes, beaucoup de cœurs, mais pas de commentaires pour l'instant.
Des cœurs pour Michel Lescaut, on peut le dire aussi, hein, sans dévoiler trop de secrets. De toute façon, le fil à Twitter, dispute FC et public. Mais alors, peut-être qu'à d'ici la fin de la saison, il y aurait beaucoup de commentaires à faire, puisque ce spectacle est actuellement donné au Théâtre de la Ville, à l'espace Pierre Cardin, jusqu'au 10 octobre. Ensuite, beaucoup de dates à venir, les 20 et 21 octobre au Carré à Sainte-Maxime. Puis on passe au mois de mai, 2 et 5 mai au Théâtre National de Toulouse, 12 et 13 mai, Théâtre de l'Olivier à Istres, du 15 au 19 mai à la Criée à Marseille, 22 et 26 mai au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence, 29 et 30 mai, Théâtre Liberté à Toulon, 5 et 6 juin, Théâtre de Cornouailles à Quimper, 11 au 13 juin au Théâtre de Caen, et puis retour au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin, ce sera du 22 juin au 11 juillet pour ce Bouvard et Pécuchet d'après Gustave Flaubert, mis en scène par Jérôme Deschamps, actuellement à l'affiche. À suivre dans la dispute, Jean Genet et Lars Noren.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Si vous avez là encore des avis à partager, n'hésitez pas à le faire sur Haute Surveillance de Jean Genet, présenté au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Cédric Gourmelon. C'est la première pièce de l'auteur, il l'a écrite en 1942. Mais Haute Surveillance va connaître quatre versions. C'est la dernière, celle de 1985, que nous voyons en ce moment sur le plateau du Studio Théâtre de la Comédie Française. Trois hommes dans une prison, l'un d'entre eux, Yevert, va être condamné à mort. Les deux autres, Lefranc et Maurice, se disputent ses faveurs et convoitent peut-être aussi la femme de Yevert.
C'est votre tour. L'un de vous descendra ma femme. Mais faites attention, j'ai tout préparé pour vous. Je vous donne votre chance. Moi, j'ai fini. Rentier, je pars pour le monde des chapeaux de paille et des palmiers. Recommencer une vie, c'est facile, vous verrez. Je m'en suis rendu compte dès le moment que j'ai tué la fille. J'ai vu le danger. Mais heureusement, après, vous me comprenez, le danger de me retrouver dans la peau d'un autre. Et j'ai eu peur. J'ai voulu revenir en arrière. Halte ! Impossible ! J'ai fait des efforts, je courais à droite et à gauche, je me tortillais. J'essayais toutes les formes pour ne pas devenir un assassin. Essayais d'être un chien, un chat, un cheval, un tigre, une table, une pierre.
Eh bien voilà un extrait qui s'arrête de façon très abrupte, extrait de Haute Surveillance de Jean Genet, mise en scène Cédric Gourmelon. Jean-Christophe Brianchon, pour commencer.
Alors, moi déjà, je suis pas un grand fan de Jean Genet, je suis pas un grand lecteur de son œuvre. Pour autant, Haute Surveillance était une pièce qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, parce qu'évidemment, à travers la rivalité qui oppose ces trois prisonniers, rivalité bon, amoureuse, mais pas que, se pose plein de questions, la question de la nécessité de tuer, la question de la nécessité du malheur, la question de la rivalité, de la mort, et la question du destin, de la fatalité du destin dont on peut se défaire ou non. C'est donc évidemment des questions importantes ou intéressantes quand elles sont traitées au théâtre. La scène d'ouverture de cette pièce me laissait penser que j'allais voir quelque chose de très beau, parce qu'en l'occurrence, cette scène est très belle. Le plateau est donc noir, recouvert de ce que je pense être du sable, ou je ne sais trop quoi, en tout cas, d'une matière noire, et un gardien de prison la balaye pour petit à petit frayer ce qui, au départ, s'apparente être un chemin, avant d'être en fait l'espace dans lequel seront enfermés les prisonniers. Cette scène est donc très belle et je pense voulait dire beaucoup, beaucoup de ce texte qui en lui-même est une manière de nous montrer l'enfermement comme étant une ouverture possible, ou en tout cas l'enfermement comme étant l'endroit possible où peuvent naître des questions. Et donc je trouvais que cette manière de l'amener était particulièrement intelligente. Malheureusement, la suite de la pièce n'a pas été à la hauteur de cette scène d'ouverture, puisque le dispositif qu'on comprend bien, qui est un dispositif très resserré sur une scène très petite, finalement enferme plus le questionnement qu'il nous permet de l'ouvrir. Et le spectateur qui est censé être gardien, enfin se retrouver dans la position de gardien de ses prisonniers, n'est finalement spectateur de quelque chose, de rien d'autre que de quelque chose qu'il ne comprend pas forcément, puisque la langue elle-même de Genet se trouve être, si ce n'est maltraité, en tout cas, finit par être difficile à comprendre, j'ai trouvé. Et là, on a peut-être affaire à un grand problème de direction d'acteur, puisqu'on est dans un jeu qui est très affecté. On peut même pas dire qu'il s'agit d'une déclamation problématique, ou t'sais, on est juste dans un jeu tellement affecté et surincarné que finalement, il finit par être en surimpression par rapport aux propos qu'il essaye de dévoiler. Et donc, on ne comprend finalement presque plus grand-chose, si ce n'est plus rien.
Eh bien, dites-moi, pour une entrée en matière sur Haute Surveillance, Marie-Josée Sirache.
Alors, je ne sais pas si je suis une grande lectrice de Genet. En tout cas, je suis une lectrice toujours intriguée et attirée par Genet, avec le sentiment de ne jamais parvenir à le comprendre entièrement. Et c'est ce qui est troublant chez cet auteur, chez cet homme-là, dans sa vie, dans son parcours. Et c'est vrai que c'est sa première pièce, elle est écrite en 42, donc c'est à la fois et surprenant et pas, parce qu'on retrouve les fondamentaux qui vont traverser son théâtre, ses écrits, tout ce qui le travaille au corps, à l'œuvre, la féminité, la masculinité, la virilité masculine, enfin l'amitié virile, l'attirance pour la marge, non pas qu'il fasse de ses personnages des héros, parce que il n'éprouve aucune compassion pour ses pères, lui-même ayant fréquenté la prison, il est au contraire dans une espèce d'affrontement permanent. Et puis, il faut ajouter à cela la langue, c'est-à-dire que Genet, quels que soient les personnages qui traversent ses pièces, travaille une langue extrêmement soutenue, exigeante. Comme pour désavouer et couper court à toutes les idées reçues sur la langue qui serait celle des malfrats, des voyous, des petites frappes. Voilà, c'est une pièce effectivement assez intrigante. Je trouve que le parti pris de Cédric Gourmelon est intéressant parce qu'il est vraiment dans la sobriété, comme vous le disiez d'entrée de jeu, cette pièce, l'obscurité, ce fond noir par terre qui est balayé, on se demande qu'est-ce qu'il va dessiner, c'est étrange, c'est un peu inquiétant, et puis tout d'un coup la lumière se fait et surgissent les trois protagonistes, et on sent que très vite entre eux il y a un rapport au pouvoir, à la séduction, il y en a un donc qui est condamné. On sait qu'il va mourir puisque il a assassiné quelqu'un. Les autres, et il raconte d'ailleurs cet assassinat avec presque de la jouissance. Et les deux autres sont tiraillés entre l'admiration, le désir d'être autour de lui, de pouvoir bénéficier de ses faveurs. Et donc là-dedans, il y a de la violence et de l'érotisme. Alors, je suis d'accord avec vous, il vient un peu tard, l'érotisme. C'est-à-dire que, non pas qu'il tourne autour du pot, mais enfin, ils sont peut-être trop en retenue, et c'est à la deuxième partie. Je trouve que là, quelque chose se brise, peut-être à l'irruption du gardien de nouveau dans la cellule. Pierre-Louis Calix, assez étrange comme attitude, on ne sait pas, il est à la fois pervers, à la fois il se veut complice, à la fois il est là, il représente l'autorité, l'ordre. Et donc tout ça, je trouve que ça fonctionne quand même, et ça reste du Genet, c'est-à-dire que c'est toujours un théâtre extrêmement mystérieux.
Mais peut-être que si l'érotisme, entre guillemets, vient tard, c'est peut-être aussi la faute, entre guillemets, du texte, puisque c'est quand même assez étonnant, et là on voit bien que c'est la première pièce de passer, je l'ai évoqué, par le personnage de la femme de Yevert, que convoiteraient ces deux co-détenus, alors que bon, plus tard, la question de la femme sera évacuée, et c'est directement Yevert qu'il convoite, enfin très très clairement et très très évidemment, sauf que voilà, il y a un personnage extérieur ici qui fait que dans le texte même, ce n'est pas si simple que l'érotisme se fasse jour. Sinon, pour revenir sur l'essentiel, moi, il me semble que rien ne va quand même dans cette production. Alors, j'ai lu avec intérêt que c'était la quatrième fois que Cédric Gourmelon mettait en scène Haute Surveillance. Alors, aurait-il fallu voir les précédentes versions, et que peut-être quand on s'attaque une quatrième fois, on a envie de tenter quelque chose de très différent, mais je n'ai pas pu m'empêcher, moi, pendant toute la représentation, de me dire, mais si c'était joué autrement, qu'est-ce que ce serait mieux? Parce que moi, je suis plutôt sensible à cette écriture, sensible à la situation, à l'intelligence de la façon dont les personnages sont traités, chacun ayant évidemment plusieurs facettes. Il y a quand même quelque chose de très très fin, mais pour parler du problème de direction d'acteur, au combien il aurait fallu qu'il y ait une variation des intensités de jeu, alors que là, il s'agit quand même de choses assez peu subtiles, parce que comme vous, j'étais sensible à cet espace de jeu, alors ce qui est logique, hein, une cellule c'est forcément un carré blanc au milieu des ténèbres, donc il est plutôt très bien rendu parce qu'on ne voit pas le fond de scène, enfin, il a vraiment joué avec cet espace qui est pas facile du jeu de théâtre, c'est vraiment un tout petit plateau, il n'y a pas de dégagement, pas de cintre, enfin on peut faire un décor unique et puis c'est tout. Mais dans l'extrait qu'on a entendu aussi, on a entendu un passage musical, et là aussi c'est quand même assez problématique que d'amener une musique baroque ou néo-baroque sur cette langue de Genet. Il m'a semblé qu'il y avait une forme de facilité ici qui a enlevé en fait de la à la fois de l'épaisseur, à la fois de l'écorché dans ce que cette pièce pourrait nous dire, Jean-Christophe Brianchon.
Je pense que c'est évidemment un des gros problèmes de cette production, c'est de ne pas vouloir, ou en tout cas de ne pas pouvoir, de ne pas parvenir à accéder à la dureté de la situation qui est la leur, et de ne pas nous faire ressentir le cheminement qui est le leur aussi, puisque il est vraiment question de savoir comment le malheur et quand le destin s'acharne, chacun peut plus ou moins trouver son chemin ou trouver une route qui lui permettra, si ce n'est de trouver un bonheur, en tout cas de vivre pleinement ce malheur, éventuellement même. Et là, cette dureté-là, la dureté de ce propos est totalement évacuée, effectivement, par certains procédés tels que la musique qui...
Ou même les changements de lumière, parce que je ne les comprenais pas, à vrai dire.
Effectivement, je ne les comprenais pas du tout non plus. Mmh. Et puis par ce jeu qui est réellement le problème principal, puisque... Alors après, évidemment qu'il est, je pense, difficile, a priori, de parvenir à faire incarner totalement à des jeunes acteurs de la Comédie-Française le destin qui est celui des acteurs, des personnages de cette pièce.
Enfin, on les a vus dans d'autres productions, vous avez cité Pierre-Louis Calix qui fait le gardien, mais ce sont Jérémy Lopez, Sébastien Poudrou et Christophe Montenez, mais pour ne parler que du dernier, il est l'une des figures centrales des damnés, il a un parcours... qui est quand même
là, je pense que
pour
c'est...
son jeune âge qu'il incarne et qu'il porte magnifiquement.
Mais c'est un parcours. Là, il s'agit réellement de gens qui dont la situation n'est pas nécessairement le fruit d'un long parcours ou pas d'un parcours psychologique particulièrement long. Mais en tout cas, c'est une dureté immédiate, une dureté de l'instant. Et ça, je pense que ça demande une réelle violence non seulement dans le jeu, mais aussi dans la direction et bien évidemment aussi dans la scénographie. Et là, à aucun instant donné de cette production, la violence n'apparaît, ni la violence psychologique, ni la violence physique, ni la violence historique, nulle part. Et donc, évidemment, que c'est un problème quand on traite d'une pièce de Genet.
Marie-Joëlle Sirache.
De toute façon, c'est toujours difficile. C'est un équilibre difficile à trouver de mettre en scène du Genet parce qu'il y a tellement d'indications et des contre-indications qu'on peut en perdre son latin. Alors, effectivement, dans la distribution et dans le jeu des acteurs, Sébastien Poudrou, pour moi, est totalement dans son personnage. Je trouve que...
C'est Yeuvert, en l'occurrence.
Yeuvert. Jérémy Lopez et Christophe Montenez sont un petit peu plus en retrait. On les sent un peu plus mal à l'aise au départ, même si moi, j'ai senti que quand même, ils trouvaient mieux leur place dans la deuxième partie. Et voilà. Et c'est vrai que c'est difficile parce que quelle est leur relation, leur rapport. Cette femme, la femme de Dieuvert, qui est une femme fantasmée, qui est une femme tatouée sur le corps de Dieuvert. Elle est l'appât. En même temps, elle sert d'appât. Et donc, il instaure un rapport de séduction et de pouvoir. Et il les met en concurrence sans le dire. Donc, tout est dans l'ambiguïté, le non-dit. Bon, voilà, je ne suis pas non plus hyper enthousiaste, je suis légèrement réservée, mais je trouve que c'est quand même un bon travail, que c'est une pièce compliquée, qui n'est pas simple, et faire entendre cette parole-là, bon, moi je l'ai entendue, je vois des failles, mais j'entends surtout une présence quand même, et cet érotisme, enfin, dans ce parti pris de la sobriété, c'est assez intéressant. C'est vrai que sur la musique, je vous l'accorde, elle est un petit peu too much. Mais je n'étais pas sûre. Enfin, moi, j'avais cru comprendre qu'il avait monté d'autres pièces de Genet.
Non, quatre fois celle-ci. Moi, c'est ce que j'ai compris.
Ah, d'accord.
Bah oui. Enfin, qu'il ait monté d'autres Genet, pourquoi pas. Mais non, quatre fois celle-ci. Mais peut-être aussi l'impression qu'on a.
Comme Genet.
Ouais, il revient. Il revient. Peut-être qu'il a monté les autres versions, allez savoir, et qu'il finit par celle-là. Bon, on n'a pas toutes ces indications. Mais le fait est que le début, que Jean-Christophe Brianchon a très bien décrit, nous donne, c'est comme une promesse. Je pense qu'effectivement, la première partie est quand même problématique, notamment pour ces questions de direction d'acteur. Et le fait est que la deuxième partie, il se passe quand même davantage de choses. On parle d'un spectacle qui dure quoi, une heure et quart ou,
heure, enfin, une, oui, moi, ça a duré toujours une heure.
Une heure, je ne me rappelle plus, je l'ai vu il y a une dizaine de jours. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu bancal d'un bon début, puis une entrée en jeu qui est quand même moins réussie. Et enfin, quand même des choses qui se cristallisent dans la seconde partie pour essayer de sauver quelque chose, Jean-Christophe Briançon.
Après, c'est peut-être aussi le problème. Bon, le texte est ce qu'il est, donc on ne peut pas durer 8 heures avec. Mais peut-être qu'il aurait fallu laisser un petit peu plus de temps aux éléments et à la dramaturgie de s'installer. Peut-être que là... moi, j'ai ressenti un problème, effectivement, dans l'installation des personnages. Mmh. Non seulement l'installation temporelle, mais aussi l'installation spatiale. J'ai aussi trouvé que l'occupation du plateau ne permettait pas réellement à chacun de pouvoir incarner ce qu'il devait être. Alors, bon, c'est un ressenti tout à fait subjectif, mais en tout cas, c'était le mien. Et puis, bon, après, je pense qu'effectivement, l'échec que je pense être celui de cette production tient aussi certainement au fait qu'il s'agisse d'un texte, bien entendu, comme on l'a dit, compliqué. Moi, je pense qu'il n'a rarement été donné l'occasion de voir des adaptations de Genet qui soient au théâtre satisfaisantes, alors que les textes, même si, comme je disais, j'en suis pas un grand lecteur, sont quand même toujours évidemment intéressants. Je pense même qu'un des échecs de ma carrière de spectateur les plus cuisants a été Les Nègres de Bob Wilson, qui pour moi était absolument infernal, et pourtant Dieu sait que
Bob Wilson... Mais il s'intéressait pas du tout à la pièce, lui, en l'occurrence.
Non, il s'y intéressait pas, mais bon, Dieu sait qu'il a su faire de bonnes pièces, mais même lui, face à Genet, a fini par échouer.
Il a fait autre chose.
Donc je pense qu'il est évidemment compliqué de traiter de Genet, donc bon, voilà, erreur... pardonner, on va dire. Bon,
Philippe Chevillier qui nous écoutait, mais qui n'avait pas encore vu cette production. Je ne sais pas si on vous a donné envie d'aller la voir. Parce que vous l'avez raté, vous aviez prévu d'y aller, et après, dans votre agenda professionnel, vous en a empêché.
En tout cas, je ne me suis pas endormi en vous écoutant. Oh, bon, c'est un peu et je me serais réveillé, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le Bob Wilson, parce que j'ai trouvé que c'était une version intéressante. Et je pense que Genet, moi, à chaque fois que je l'ai vu, ça marche bien quand on arrive un peu à, justement, se démarquer et prendre des... quasiment des chemins de traverse, parce que sinon ça, c'est très difficile à monter. Je pense à Nausiciel aussi, qui est splendide, hein, je ne dis pas de bêtises.
Ouais. Splendide,
qui était pour moi un splendide spectacle, justement, mais où on sentait à chaque fois que c'était sur le fil au niveau du... Parce que la langue, justement, est très difficile à porter sur une scène. Mais lui, il avait réussi quelque chose de formidable.
Mais moi, dans le rythme, j'ai pensé quand même à Chant d'amour, le moyen-métrage de Genet. Ce huis clos comme ça où l'on étouffe, et ce qui explique aussi la difficulté des déplacements de ces êtres-là dans cet espace clos. Donc là, ils ne se bousculent pas, mais parfois ils peuvent se bousculer. Enfin voilà, il y a
justement là en l'occurrence, ils ne se bousculent pas. Ils occupent, ils sont finalement très très éloignés l'un de l'autre dans un espace qui est pourtant très exigu. Donc finalement, leur rencontre n'existe pas, leur rencontre physique n'existe pas. Or, comme on le disait aussi tout à l'heure, il est évidemment question d'une attirance sentimentale et sexuelle entre eux. Il n'est pas seulement question de rivalité entre tolards, on va dire. Là, sur un tout petit espace, on parvient à ne pas les faire se rencontrer. C'est quand même étonnant.
Haute surveillance de Jean Genet, mise en scène Cédric Cormelon, c'est jusqu'au 29 octobre au Studio Théâtre de la Comédie Française.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Bon, et si on le faisait maintenant, le petit coup de cœur de Philippe Chevillier, parce que comme il est venu au Débeauté pour cette émission, je lui dis, Philippe, il y a bien un spectacle que vous avez vu, enfin je ne vous vois pas dans la vraie vie, mais vous savez qu'à l'antenne j'y tiens. Et puis oui, vous êtes allé à Strasbourg, Philippe.
Je suis allé à Strasbourg, ça fait la deuxième fois, puisque j'ai vu Tarkovski et j'ai vu Le Pays Lointain. Et Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Clément Hervieux-Léger. Et c'est un spectacle qui m'a énormément plu, qui va pas mal d'ailleurs se balader en France, hein, puisqu'il va passer par Quimper, Lyon, Caen, Sablé-sur-Sarthe, Château-Vallon, Val-de-Reuil, j'avais oublié. Et puis je pense qu'il sera à Paris en 2019, donc faudra attendre. Et donc c'est un peu étonnant pour les gens qui ont vu Clément Hervieux-Léger, pensionnaire de la Comédie Française, monter Marivaux, Molière, jeune qu'on voit très classique dans ses goûts, dans ses choix, de le voir sur Lagarce. Et en fait, ce texte de Jean-Luc Lagarce, pour lui, c'est un classique moderne. C'est un texte qu'il a beaucoup accompagné, dit-il. Et donc, on assiste vraiment à la mise en scène d'un classique moderne. C'est-à-dire qu'il y a un décor qui est concret, métaphorique, parce que c'est une aire d'autoroute. Ces personnages sont posés là. Il les fait... pas trop bougé, alors qu'on avait vu beaucoup de mises en scène précédentes où il y a une partie statique assez importante, mais des mouvements brefs par moment et qui donnent de l'intensité au spectacle. Il est surtout accompagné, il a une distribution absolument incroyable, puisque quand on a l'œil Corbery qui joue donc le personnage de ce fils qui revient dans sa famille, c'est le pays lointain, c'est juste la fin du monde rallongé par en fait un an avant sa mort. Il réécrit la pièce en reprenant donc le juste la fin du monde et en ajoutant à ce retour du fils dans sa famille les personnages qui l'ont entouré, son autre famille, sa tribu, les fantômes, les amants. Et donc on a un mélange des genres, un mélange des temps, un mélange des gens, c'est très complexe. Et lui n'a rien coupé et pendant 4 heures il nous fait un spectacle, on ne se nuit pas une seconde, mais avec cette distribution. Donc j'y reviens, l'œil Corbery qui est dans le rôle du fils et qui est tout dans l'émotion contenue, qui est vraiment formidable. Vincent Dicez, qui fait l'ami de longue date, qui est toujours assez charismatique et qui porte aussi son personnage très haut. Audrey Bonnet, alors qui joue le rôle de la sœur, qui arrache vraiment les larmes. Moi, j'ai vraiment pleuré quand elle exprime toute la colère, toute la frustration de cette sœur. Et Nada Strancar, qui donc à la fois la mère est perdue dans le rôle de la mère. Enfin, et toute la distribution est à l'avenant. Il y a Emeline Anix de la belle-sœur, qui est Catherine, Guillaume Ravoine qui joue Antoine le frère, Louis Berthélémy qui joue le jeune homme mort, tous ces personnages, j'en oublie quand même au passage, sont admirables de bout en bout. Et alors en plus c'est une progression dramatique. Au début on a exposition un petit peu comme un prologue, comme un chœur en plein feu devant la scène, et puis petit à petit, au fur et à mesure que ça avance, sans jamais vraiment tomber dans le pathos, on a l'émotion qui monte et à la fin vraiment on est vraiment bouleversé. Et j'ai regardé dimanche à la télévision en replay juste la fin du monde de Xavier Dolan, qui est complètement différent dans la vision. Et c'est assez intéressant de voir tous ces personnages, puisque c'est les mêmes que jusqu'à la fin du monde, pour une partie, portés de cette façon, avec aucun pathos, une retenue, et qui rendent vraiment service, et qui rendent vraiment service à ce classique qui peut s'adapter comme on veut. Mais dans l'adaptation de Clément Hervé-Léger, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable, et que c'était un digne héritier de Patrice Chéreau, dont il a été l'assistant.
Le Pays lointain, c'est donc cette pièce de Jean-Luc Lagarce montée par Clermont et Hervieux-Léger, c'est jusqu'au 13 octobre au Théâtre National de Strasbourg, et puis d'autres dates qu'on mettra bien sûr en ligne sur notre site La Dispute via le site franceculture.fr. Merci Philippe pour ces nouvelles de Strasbourg. Nous ouvrons donc le quatrième temps de cette dispute consacrée au spectacle vivant avec Démon d'après Lars Noren, dans une traduction co-signée par Louis-Charles Sirjac et Per Nigren. Démons, une pièce là aussi complexe, qui normalement met en scène deux couples assez dissemblables, on peut le dire comme ça, voisins d'immeubles. Celui qui normalement ouvre la représentation est un couple qui se déchire depuis plusieurs années, mais qui n'arrive pas à se séparer. L'autre couple, plus jeune, a deux enfants en bas âge, et la femme en a un peu marre d'être la mère au foyer. L'homme, lui, travaille beaucoup pour, évidemment, subvenir aux besoins du ménage. Ce qui est au cœur de ce texte de Lars Noren, c'est la question du désir de l'autre, confronté aussi à la dureté de la vie quotidienne. Comment être ensemble? Comment ne pas être ensemble? J'ai dit normalement, là, bien entendu, puisque dans la version de Lorraine Sagazan, il n'y a plus qu'un seul couple. Nous allons parler de ce choix et de ce qui en découle dans la réception du spectacle.
Pourrais-tu, s'il te plaît, aller me chercher mes chaussures pour que je puisse sortir d'ici?
Pourrais-tu, s'il te plaît, aller t'occuper de la plaque de verre du frigo que t'as cassée il y a 3 ans, juste au-dessus du bac à légumes, s'il te plaît?
Je l'avais oublié, je pensais que
oublié? Toi aussi... Ouais, pardonner, non. Oublié, yavol, pardonner, dalle!
Mais qui supporterait de vivre comme ça?
Toi tu supportes.
Va me chercher mes chaussures.
Va les chercher toi-même.
Je peux pas, j'ai une coupée et des bouts de verre.
Oui.
T'es malade.
Et tes yeux, cochon, ils sont malades ou ils me regardent comme ça juste pour me...
Voilà pour ce court extrait de cette vision de Démon. C'est le titre, hein, Démon. Vision de Démon par Lorraine de Sagazan. Marie-Josée Sirache, un seul couple. Mais nous sommes tous l'autre couple, nous qui
absolument
sommes autour du plateau.
C'est ça, c'est une adaptation extrêmement bien inspirée de la pièce de Lars Noren.
Je n'ai pas encore vu, hein, je précise.
Donc il n'y a qu'un couple sur scène et c'est la communauté, enfin ce sont les spectateurs qui vont former l'autre couple, qui vont être les partenaires et assister et être invités et s'inviter et être invités à cette soirée où ces deux êtres vont se déchirer, s'aimer, s'attirer, se repousser, s'insulter, enfin. Et le spectateur est sollicité en permanence dans ce travail. Et on est à la fois dans une position extrêmement inconfortable, comme quand on assiste dans la vraie vie à un couple d'amis qui d'un coup va se déchirer devant nous. On ne sait jamais quelle attitude adopter. Et donc c'est inconfortable et c'est même dérangeant. Et je trouve que ça fait qu'elle tape juste le reine de Sagazan, c'est-à-dire que elle nous met dans une position où on ne sait jamais ce qu'on voit est vrai, s'il se moque de nous, s'il joue de nous, s'il se rit de nous, et jusqu'au bout, hein, il y a un doute. Enfin, finalement, un autre couple parmi les spectateurs va se reconstituer, mais on nous fait croire qu'ils sont des spectateurs, mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Enfin, bon, voilà, il y a tout le temps et ça rebondit. C'est un jeu extrêmement vigoureux, extrêmement électrique, électrisant. Ils sont tous les deux. Alors, je ne veux pas écorcher leur nom. Lucrèce Carmignac et Antonin Meyer-Esqueré. Je les ai trouvés formidables.
Alors, Jean-Christophe Brianche.
Je suis absolument d'accord. J'ai trouvé ça d'une habileté vraiment remarquable. Ce dispositif dont je ne suis pas sûr qu'il soit le même exactement partout où il est joué, parce qu'en l'occurrence au Montfort, c'est en bifrontal.
Partout.
C'est en bifrontal partout.
Partout, oui.
Je trouve ça très intéressant parce que voilà, on se retrouve donc invité effectivement à ce qui, dans un premier temps, nous semble être.
Je pense qu'au Théâtre de la Belle Ville, c'était en quadrifrontal, sauf votre respect. Il me semble que vraiment, ils étaient au cœur du public.
D'accord. Mais ça, au Nuit de Fourvière, c'était en bifrontal.
Bon, je ne sais plus. Bon.
Parce que en l'occurrence, on se retrouve de toute façon invité à ce qui, dans un premier temps, semble être l'enterrement d'un couple, mais qui finalement s'avérera être peut-être la célébration de ce couple, en fin de compte. Et c'est là que c'est très habile, puisque le spectacle finit par nous laisser nous regarder face à face, comme ça, avec ce couple qui s'enfuit, et qui s'enfuit finalement en s'aimant. Et nous seuls nous regardant, on finit par être les seuls à devoir nous interroger sur l'histoire de ce couple, alors même que l'idée était peut-être de prime abord, sans y avoir trop réfléchi, simplement une invitation qui nous était faite à regarder un couple échoué. Finalement, non, c'est nous qui devons nous questionner. Et c'est d'autant plus remarquablement fait que, contrairement à ce qui est souvent le cas quand il s'agit de traiter du couple et de traiter d'amour en matière artistique ou quand c'est des intellectuels qui traitent de la question, bien souvent le couple est traité de manière ironique et de manière un petit peu condescendante, puisque ce serait un petit peu l'aveu de faiblesse de chacun de devoir ou en tout cas de pouvoir être amoureux. Là, en l'occurrence, cette ironie n'existe pas du tout, et elle n'existe pas, je trouve, en grande partie grâce au jeu d'Antonin Meyer, qui parvient à établir réellement une rupture entre le discours qui est le sien et la voix qu'il apporte. Il parvient à opérer une rupture qui fait que son discours, aussi ironique puisse-t-il être, sa voix et son jeu nous démontrent que le discours qui est celui de Lorraine de Sagazan n'est pas celui de la pièce. Et donc ce détachement entre le discours et la voix du discours est très intéressant et permet non pas de finir par nous dire que le couple n'est pas une possibilité, mais bien au contraire finit par nous dire que, en tout cas, si ce n'est pas une possibilité assurée du bonheur, c'est une question qui doit se poser. Et c'est très intelligemment fait.
Marie-Lo Sirach.
Absolument. D'autant qu'il sollicite le spectateur pour lui demander de prendre parti. On est pris à partie et c'est comme si on nous demandait de prendre parti. Et chacun va s'adresser à nous. Antonin Meyer-Esqueré, effectivement, avec un air de ne pas y toucher, comme ça, où il se joue, il se déjoue, enfin, il y a un dédoublement permanent chez lui qui est assez frappant. Mais Lucrèce Carmignac aussi, sa présence est intéressante, elle est plus dans la fragilité, on dirait qu'elle tente de recoller les morceaux, qu'en même temps elle est fatiguée, épuisée, elle le dit souvent, et on éprouve avec elle cette sensation physique. C'est troublant, c'est attirant, on les trouve beaux, on a envie qu'ils se réconcilient, puis finalement on a envie qu'ils se séparent. Enfin, c'est incroyable comme ils parviennent à nous embarquer dans cette histoire. C'est un couple. On pourrait penser, alors, est-ce que parfois je me disais, bon, ça pourrait être du Romer, mais alors un Romer version grunge, c'est-à-dire ils sont punk, en fait, ils sont complètement il se lâche. Enfin, c'est, et la violence est là et en même temps il s'aime. Et c'est ça qui est beau et qui est troublant. Et ce qui est drôle dans le bifrontal, c'est que eux passent, parfois ne font que traverser la scène, disparaissent. Et ce que vous disiez, et on se retrouve face à d'autres spectateurs et on est tous gênés. On ne sait pas très bien quelle attitude adopter. Et voilà, donc ça veut dire que c'est réussi parce que nous mettre mal à l'aise à ce point, nous pousser dans nos retranchements où d'habitude on vient regarder, et puis on est un petit peu en dehors, et puis ensuite on va réfléchir sur l'objet que nous avons vu. Et là, on est complètement pris dedans, quoi. Et on n'a pas d'autre moyen. Et on se dit, pourvu que ce ne soit pas mal, moi qui vienne chercher, c'est la hantise. Tout le monde se tient, hantise, ouais. Tout le monde regarde ses chaussures, c'est drôle d'ailleurs.
Mais ils ne vont pas chercher des gens, en vrai, c'est...
Bah, ils vont chercher des gens qui s'avèrent finalement être manifestement, ouais, mais sans certitude, des comédiens.
C'est très habile.
C'est très habile, mais en même temps, ils ne sont pas crédités sur le
point de vue. Non, ils ne sont pas crédités.
Je serais peut-être dévoilé l'astuce, mais en tout cas, ils sont très, très forts.
Mais non, parce que cette pièce, j'imagine, comme moi, Philippe Chevillier, que vous en avez vu quelques versions de Démons de Lars Noren, la plus récente en français, avec celle de Lorraine de Saint-Gazan, c'était celle qu'avait mise en scène Marcel Di Fonzobo, avec notamment Romain Duris et Marina Foïs, Anaïs de Moustier, et c'est un acteur qui avait repris le rôle au dernier moment. Si, ça va me revenir. Bon, bref, un beau jeune homme balafré. Vous avez trouvé ça. Mais on a pu aussi le voir, peut-être mis en scène par Thomas Ostermeyer.
Oui, Ostermeyer,
Notre ami Lars Eidinger tenait le rôle du sympathique mari. C'est une pièce qui a quand même... Ah, Gaspard Ulliel, merci à Aïssa Tounder. Heureusement que vous êtes là, vigilante. Les gens sur Twitter, vous auriez vraiment pu me répondre. Soyez plus rapide que Aïssa Tou, ça va être le jeu. Gaspard Ulliel, qui s'en sortait plutôt très bien d'ailleurs dans cette production, avais-je trouvé, surtout qu'il avait repris ça en plein vol. C'est une pièce qui est extrêmement cruelle. Et d'ailleurs, Lorraine de Saint-Gazan dit aussi qu'il s'agissait pour elle de se démarquer de l'écriture de Lars Noren, qui est une telle violence, mais elle la transforme. Ça reste absolument violent, mais c'est une autre optique à vous entendre.
C'est une autre optique, mais pour autant, elle épouse réellement la cruauté de ce texte, et en particulier en mettant, à mon sens, au cœur de la pièce, la question de la mortalité. Alors, la mortalité, évidemment, par le biais du personnage qu'on ne voit pas, mais dont on parle souvent, qui est la mère du mari, qui est donc morte récemment. Mais au-delà de ça, la mortalité est partout présente dans cette scénographie. Scénographique, et donc c'est l'espace de jeu est un carré vide, entouré de portants auxquels sont suspendues des robes de soirée qui ne finissent par être que des souvenirs morts de bons moments passés. Et donc la mortalité est là aussi dans cette scénographie, mais elle est aussi dans la musique qui nous accueille, qui est le Roméo et Juliette de Prokofiev, qui par définition a priori annonce quelque chose de plutôt morbide. La mortalité est donc partout toujours présente, et le fait qu'elle l'ait mise au cœur de son propos et au cœur de sa pièce montre bien qu'elle épouse évidemment la difficulté de ce texte, sans pour autant du tout tomber dans le sordide, et en acceptant tout à fait une ouverture possible, puisque la fin est finalement bien moins sordide que tout le déroulé de la pièce.
Donc proche de Noren, dans l'esprit.
Oui, oui, puis effectivement, il y a deux répliques. La première, très vite au début, où elle lui dit « ou je te tue, ou tu me tues ».
Donc, d'entrée de jeu, ça mérite d'être simple, hein, comme alternative.
Et ensuite, lui demande à brûle pour point, à un moment donné où ça reclash à nouveau, pourquoi tu ne te fous pas par la fenêtre comme la femme de Modigliani? Et elle lui répond, parce qu'elle l'a fait par amour, donc débrouillez-vous avec ça.
Toujours de bons conseils. Bon, on a envie d'y aller, Philippe Chevillier,
non? J'ai très envie d'y aller. Ouais. Je me demandais s'il y avait des couples qui se faisaient ou se défaisaient à la fin du spectacle. Ah.
En tout cas, je suis rentré célibataire.
Mais vous étiez arrivé comment?
Célibataire aussi.
Ah bon, donc... Vous auriez pu rencontrer l'amour dans la salle et dans le bifrontal.
Bien non.
C'est votre soirée.
Bien que la comédienne qui ne joue pas le rôle d'une comédienne, qui est choisie dans le public, est une très bonne comédienne dont j'aurais pu tomber amoureux. Mais bon.
Ouais, voilà. C'est votre genre de tomber amoureux des comédiennes. Mais ça, c'est une autre histoire. Démons d'après Lars Noren, on l'a compris. Donc, adapté, mise en scène par Lorraine de Saint-Gazan. Les traducteurs, je les redis parce qu'ils sont évidemment importants, c'est Louis-Charles Sirjac et Père Nigren. C'est en ce moment au Montfort et jusqu'au 14 octobre. Le Montfort, c'est à Paris. Et puis en tournée 10 novembre, Maison du Théâtre et de la Danse d'Épinay. 16, 17, 18 novembre, festival Supernova au théâtre Sorano de Toulouse. Du 28 novembre au 2 décembre au Cédène de Rouen en Normandie. 7 et 8 décembre au théâtre du Beauvaisis à Beauvais. 15 décembre au Perreux-sur-Marne au CDBM. 16, 17 janvier 2018, ce sera à Londres, théâtre de Vélizy, Villacoublay. 1er février 2018, l'atelier à spectacle à Vernouillet, ensuite au Quai à Angers du 6 au 9 février, 12 avril au Rayon Vert, c'est pour le côté Romer, c'est une conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, et puis enfin 16-17-18 avril au Phoenix à Valenciennes, beaucoup d'occasions pour aller voir ces démons vus par Lorraine de Sagazan. Et avant de conclure cette émission et de retourner au lit, cette émission, le jeu de la dispute a commencé par un rappel. Le jeu de vendredi soir, c'est Grégoire Di Fiore qui nous rappelle quelle était la question.
Quel peintre, repéré par le collectionneur Willem Oude, réalisa son portrait? La réponse était Picasso.
Et ce soir, nous faisons gagner des DVD du documentaire de John Nguyen, David Lynch, The Art Life, distribué par Potemkin. Quelle est la question?
Que vise à promouvoir la fondation créée par le réalisateur américain?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Préparez donc vos commentaires via Facebook. Facebook, c'est la dispute FC. Vous pouvez le faire dès maintenant sur les sujets de demain. Vous pouvez attendre le direct demain à 19h. Il s'agira de musique. Demain soir, nous serons avec Sophie Rosemont, Olivier Lam et Joseph Ghost. À notre affiche, Flower Boy de Tyler, the Creator. Electro Soma 1 et 2, les anthologies de B12. Et puis, Twin Peaks 3 fois. Et oui, Twin Peaks, la musique de la série. Twin Peaks, le soundtrack de la série, c'est très différent. Et l'anthologie de Dean Hurley, des effets sonores de la série. On va ausculter tout ça demain, dès 19h.